¡Vamos, Roberto! ¡Vamos, Roberto! ¡La va a poner Roberto! ¡La pone Roberto! ¡Ahí está Zinedine! ¡Zinedine en gatilla! ¡Chuta! ¡Gol!
Un pas de plus vers un nouveau titre de champion d'Espagne, le 36e justement, qui a été effectué ce vendredi pour le Real Madrid à San Sébastien, avec une victoire précieuse et de haute lutte contre la Real, 1-0, grâce, j'allais dire, au chouchou des réseaux sociaux, au chouchou de nombreux fans du Real Madrid, y compris Hichem, là, qu'on aura tout à l'heure. En la personne de Arda Güler, 3 points de plus et surtout le plein de confiance avant le match aller de Ligue des Champions, la demi-finale contre le Bayern Munich à Munich. On va essayer de revenir sur tout ça et aussi de vous donner les meilleurs éléments de contexte avant le match de mardi, mais avec Hichem de Real French Madrid. Salut Hichem.
Salut à toi Gilles, j'espère que tous les auditeurs vont bien.
Ah ben on espère également qu'ils vont bien et surtout, il n'y a pas de raison qu'ils n'aillent pas bien en regardant les matchs du Real et en regardant, on va dire, cette fin de saison palpitante du Real Madrid où le mois d'avril arrive à grands pas et le Real est toujours dans le coup en Ligue des Champions et plus que dans le coup en Liga. Et franchement, quand on voit le match de vendredi avec un effectif qui a été largement remanié, que ce soit en défense, au milieu et même sur l'animation offensive, tu gagnes 1-0 et t'as 14 points d'avance sur le Barça en attendant le match de lundi qu'ils joueront contre Valence. T'es ouais. Quasiment champion.
Ouais, c'est vrai que le Real là sur cette fin de saison se met dans les meilleures conditions possibles pour aborder les dernières échéances les plus importantes. Et cette équipe a su mettre l'écart qu'il fallait en Liga, à devancer tous ses concurrents directs. Donc, pendant un moment, c'était Gironde, là, maintenant, c'est Barcelone, sur lequel on a, comme tu le disais, 14 points. Donc, c'est de bon augure. Et voilà, on aborde plus sereinement, on va dire, la demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern, qui reste... bien évidemment l'objectif principal de cette fin de saison, étant donné qu'en Liga on peut lever le pied et c'est ce que Carlo Ancelotti a prévu de faire d'ailleurs dans sa composition d'équipe contre la Real Sociedad, en alignant une équipe B quasiment, avec Joselu en attaque, Brahim Diaz et tant d'autres joueurs qui normalement n'ont pas autant de temps de jeu. Ça a permis également à Militao de regagner du temps de jeu, ce qui est important.
Oui, bien sûr.
Et peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Très très bon. Après, concernant, en entrant un peu plus dans les détails pour ce match, c'était un match qui était très bon du Real, mais pas non plus flamboyant. C'est à l'image de cette équipe... depuis le début de saison, c'est-à-dire que le Real sait s'imposer sans forcément briller outre mesure, mais reste solide défensivement avec un très bon Kepa et certains autres éléments qui restent, même s'ils sont remplaçants, restent excellents. Mm-hmm. Je pense notamment à Lucas Vázquez et à Nacho qui, après son match contre Manchester City, là, a refait un bon match, je trouve. En tout cas, meilleur que ce qu'il a pu nous montrer. Ensuite, sur les autres secteurs de jeu, milieu de terrain, attaque, voilà, c'est pas du très très grand Real Madrid comme on a l'habitude de le voir avec Vinicius, Rodrigo et Bellingham, mais ça reste très efficace. Et bravo à Arda Güler pour son deuxième but, je crois.
Ouais, son deuxième but, et j'allais dire que c'était l'une de ses rares titularisations. Il avait été titulaire, je crois, c'était
en Copa del Rey.
C'était en Copa del Rey, effectivement. Et là, on va dire, en championnat, c'était, on va dire, on compte sur les doigts d'une main les minutes qu'il a pu jouer, mais on va dire que sur ce peu de minutes, il a toujours montré de belles choses. En atteste le but, effectivement. Donc, quand on revoit l'action, Tchouaméni qui décale avec une belle transversale sur le côté droit, Dani Carvajal qui centre en une touche. C'est ouais. Là où on voit toute la confiance d'un joueur comme Dani sur cette fin de saison. Et Arda Güler qui conclut l'action. J'allais dire sur l'une des rares actions du Real Madrid sur la rencontre, sur la première mi-temps, où ouais. Le Real a été bousculé de toutes parts.
Ouais.
Où on a, j'allais dire qu'il y avait vraiment une vraie différence d'intention entre la Real Sociedad, mais qui joue, on va dire, son avenir européen en essayant de prendre les 3 points, et une équipe du Real Madrid qui, bon voilà, on est champion, on est quasiment champion d'Espagne, tu gagnes le Clasico, t'as la demi-finale de Ligue des Champions, ben du coup t'essayes de te ménager plus qu'autre chose, et donc on a vu cette différence là, mais pourtant on voit que la Real Sociedad n'a pas conclu ses différentes occasions et les différentes opportunités, sa domination sur la première période, et le Real sur l'une de ses rares actions marque et montre que il est dans un état d'esprit où c'est très difficile de battre ce Real Madrid, et c'est très difficile aussi donc d'aller les chercher une fois qu'ils ont mis la main sur le score.
Ah, ça c'est clair. La Real qui s'est procuré énormément de d'occasions, hein, surtout en première période, elle a surtout su mettre en lumière les lacunes qui restent une caractéristique, un attribut de cette équipe du Real Madrid cette saison, les problèmes en transition défensive, mais aussi les problèmes de relance. On a vu par exemple un Aurélien Tchouaméni un peu trop nonchalant, on va dire, sur une action qui a permis de créer un très gros danger pour ouais. La Real Sociedad.
Mais après, peut-être qu'il était un petit peu seul, parce que quand tu vois, par exemple, là, ouais. C'était Modric et Ceballos, et en fait, on était plus dans un milieu qui était, on va dire, un 4-3-3 plutôt que le 4-4-2 losange ou le 4-4-2 qu'on a pu utiliser cette saison. Ceballos, on sent qu'il n'est pas trop concerné. Modric, non. Il a été moins bon que la semaine passée. J'ai l'impression que voilà, ce milieu de terrain n'a pas forcément répondu à nos attentes, on va dire, par rapport à ce qu'on a pu voir la semaine passée.
C'est clair, mais après, comme tu l'as dit, tout est dans l'intention. Le Real sait dans quel fauteuil il se trouve, et c'est celui du leader, celui qui n'a plus de pression, celui qui peut se permettre de lâcher du lest, de lever le pied, contrairement à la Real Sociedad. La différence d'impact, d'intensité mise par la Real Sociedad par rapport à celle du Real Madrid a fait que la Real Sociedad, bien évidemment, se crée beaucoup plus d'occasions et crée plus de dangers. Mais derrière, Kepa a été là pour arrêter les quelques occasions de la Real Sociedad. En tout cas, il a montré beaucoup de confiance. Et Dieu merci, ça n'a pas été allé. Enfin, on n'a pas pu, on a pu ne pas encaisser de but. Excuse-moi. Donc voilà, c'est de bon augure. Mais c'est comme je le disais, c'est à l'image de ce Real Madrid cette saison, comme on a pu le voir, concéder certaines occasions dangereuses, mais dès que ça marque derrière, c'est compliqué pour l'adversaire de revenir au score. Je pense notamment au but de Kubo qui a été justement invalidé. C'était la seule grosse occasion de but de la part de la Real Sociedad, en tout cas qui a fini au fond, mais qui a été refusé par l'arbitre. Donc, bien sûr.
Mais là, c'est vrai que quand on voit par exemple la rencontre. Les seules choses que l'on peut, on va dire, souligner, c'est le retour de Kepa. Quand même, ça fait plus de 2 mois qu'il n'avait pas joué pour le compte du Real Madrid. Et donc, du coup, il revient bien. Et voilà, on fait souffler aussi Lunin en vue de mardi en Ligue des Champions. Et Ter Militao, hein, tu le disais tout à l'heure, ouais. Justement, donc, qui récupère des minutes et qui a sa première titularisation depuis sa blessure. qui a été très chahuté quand même. Hein. C'est vrai, c'est-à-dire que sur tous les duels qu'il a pu avoir, on sent qu'il est en recherche de repères et que physiquement, il n'est pas en forme. Et c'est vrai qu'il y avait des personnes qui commençaient à poser la question, est-ce que Eder Militao peut être aligné contre Munich? Honnêtement, pour lui et pour nous, son intérêt, c'est de penser à la saison prochaine et de pouvoir rendre service comme il a pu faire sur le match contre City dans les fins de rencontre, avoir quelques minutes pour pouvoir, on va dire, soit sécuriser un score ou soit voilà, être une bonne option de secours. Parce que là, effectivement, c'est pas forcément ce qu'on attend de lui qui soit, on va dire, tout de suite opérationnel, parce que moi, j'ai toujours peur de la rechute qui arrive après une grave blessure comme celle qu'il a eue. On se souvient de ce que Courtois avait eu, hein, donc, parce que Courtois aussi aurait été peut-être prêt pour rejouer, mais la rechute qu'il a eue pendant la trêve internationale a compromis ses chances, même s'il est revenu à l'entraînement et qu'il s'entraîne normalement.
Déjà, sur Kepa, effectivement, ça c'est... Alors, je vais donner mon avis sur Kepa, mais c'est vraiment pas forcément en termes d'analyse football très pertinent. Mais c'est pas un joueur que, en dehors de ce qu'il montre sur le terrain, et même sur ce qu'il montre sur le terrain, un joueur que j'apprécie forcément.
D'accord.
Mais parce qu'on a vu certaines attitudes qui sont pour moi intolérables à haut niveau. Je repense notamment au fait qu'il refuse de sortir lors d'une séance de pénalty.
C'était il y a longtemps, ça.
C'était il y a longtemps, mais c'est une image qui est restée chez moi de Kepa. Mais bon, sans lui faire de procès d'intention. Enfin bref, ça pour dire que quand il est venu au Real, j'étais très sceptique par rapport à ce joueur.
Mm-hmm.
À un moment, il a su démontrer certaines choses, de bonnes choses, puis il est retombé dans certains travers avec des performances qui n'étaient pas à son avantage, ni à celle du Real Madrid d'ailleurs.
C'est ça, ouais. Je pense que c'est ce qui lui a porté préjudice, c'est vraiment le mois de janvier. Hein. Même si moi, je pense qu'à partir du mois de janvier, Ancelotti avait déjà installé donc sa hiérarchie dans mon esprit, même dès décembre pour moi, où Lunin était titulaire, alors que sur le début de saison, il était titulaire, mais après derrière, ça alternait parce que les deux étaient satisfaisants en termes de niveau.
Exactement. Et donc, le fait est qu'il subisse en fait sa perte de titularisation au profit de Lunin. À juste titre encore une fois, mais derrière le joueur, ce que j'ai vraiment apprécié et ce qui a été rapporté dans la presse, c'est que le joueur a su rester professionnel malgré tout, et ça j'ai envie de tirer mon chapeau à Kepa qui a accepté en fait j'ai envie de dire la situation, a accepté le fait que effectivement Lunin performe mieux sans faire de vagues. Il a eu sa chance, Kepa, il l'a loupé, mais derrière, tu vois, l'attitude qu'il a montrée a été très respectueuse envers le Real Madrid, et ça, j'ai envie de souligner ça chez le joueur. Et quand on voit encore sa performance qu'il a pu faire à Anoeta, qui reste une bonne performance malgré tout, tu te dis que le joueur, je me suis trompé sur son jugement. C'est un joueur qui a su rester pro, a su rester malgré tout, malgré la pression et le fait que tu loupes ta chance au Real Madrid, a su rester droit dans ses bottes et livrer des performances qui pour la fin de saison sont très bonnes. Donc bravo à Kepa dans un premier temps. Après, par rapport à Militao et la question de savoir s'il devrait être titularisé ou pas contre le Bayern Munich, ça c'est clair. Il ne doit pas être titularisé contre.
Oui, voilà, c'est clair que non.
Il ne doit pas être titularisé, c'est pas son moment. Ça le mettrait plus en difficulté, ça mettrait l'équipe en difficulté. Pas que Militao n'est pas un bon joueur, c'est un joueur qui a un talent fou pour un défenseur de son âge. Il a un niveau exceptionnel, mais c'est pas le moment. Et effectivement, il faut attendre la prochaine saison et l'utiliser comme un joueur d'appoint. Sur cette fin de saison pour reposer soit certains éléments, soit lui donner du temps de jeu justement pour préparer la saison prochaine, et je pense que c'est la manière dont on doit gérer, en tout cas dont Ancelotti doit gérer Militao, ça c'est clair.
Ah oui, mais je pense que voilà, Ancelotti lui-même sait, c'est juste qu'il avait donné des fausses pistes à, on va dire, dans conférence de presse ces dernières semaines pour dire voilà, j'ai déjà fait jouer des joueurs qui avaient zéro minute dans des matchs très importants. Mais c'est vrai que quand on voit, on va dire, l'historique de Carlo Ancelotti, il y a toujours un plan de récupération qui est progressif pour revenir donc à un poste de titulaire. Mais là, oui, on a eu tellement de graves blessures cette saison qu'on va pas prendre le risque de le refaire. Et c'est surtout aussi donc dans ce match où on voit que tout le monde est concerné, donc y compris les joueurs qui sont sur le banc. Hein. Donc Fran Garcia aussi a été, a bien bataillé face à Take Kubo. Après il y a aussi voilà donc les autres joueurs. C'est un petit peu Rossello qui est un petit peu déçu, même s'il a essayé d'apporter autre chose, notamment dans le jeu aérien où il y avait pas mal de sollicitations de son côté. Il a réussi à gagner donc quelques duels. Mais ça n'a pas forcément été utile dans l'animation du jeu du Real. Et surtout aussi, c'est que ce qui est bien, c'est que voilà, qu'on ne pourra pas parler de manque de rythme, puisque des joueurs comme Vinicius, comme Valverde, comme Rudiger, comme Avinga et Lucas Vazquez ont été alignés, ont pu jouer, ils sont rentrés en cours de rencontre, histoire d'avoir encore un petit peu de rythme, hein, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on avait souligné. Avant le match contre City, il y avait à peu près 9 jours entre le match de City et le dernier match qu'on avait joué en Liga. Ça nous avait permis de bien préparer la rencontre, mais d'un autre côté, on avait senti, après le Real Madrid, dans la deuxième période du match aller, en manque de rythme, en cherche de souffle. Et là, on voit qu'Ancelotti et son staff a bien pris en compte ce paramètre pour, faire en sorte que ceux qui doivent jouer, logiquement mardi, soient toujours dans le tempo, excepté Bellingham, je crois, qui normalement il devait être forfait, mais je crois que de dernière minute, il y a eu Rodrigo qui était grippé et qui était dans le groupe, et lui qui n'a pas joué de la rencontre.
Ouais, bah c'est ça, le fait de toujours garder ce rythme et de façon générale, l'effectif, à part le quart d'Aguilera, mais ça c'est un autre cas, c'est anecdotique, et c'est plus pour faire plaisir aux fans, j'ai l'impression. Globalement, Carlo Ancelotti a été l'homme de la situation cette saison et a su gérer quasi parfaitement les temps forts et les temps faibles de cette équipe du Real à travers toute la saison. Et donc là, le fait qu'il réajuste certaines choses par rapport au manque de rythme qui a pu être constaté lors du match aller contre Manchester City en Ligue des Champions, il fait les bons choix, il sait quel joueur reposer, quel joueur remettre en jambe, et c'est de bon augure contre le Bayern. Il n'y a pas plus de commentaires à faire de ce point de vue. Il est bien assisté également par son fils Davide Ancelotti, qui est aussi à certaines prises de décision. Donc Carlo, pour moi, vraiment chapeau. Et d'ailleurs, une statistique, c'est que Carlo se rapproche de Miguel Nunez, excuse-moi, qui est l'entraîneur qui a le plus de titres. Miguel Nunez, qui a le plus de titres, donc 14 titres au Real Madrid, et donc Carlo Ancelotti qui montre encore une fois qu'il est parfaitement fait pour le Real Madrid, comme le disait, je crois, Florentino Pérez en début de saison. Et le Real est parfaitement fait pour Carlo Ancelotti. Plutôt, c'est peut-être que c'est José Mourinho qui disait ça.
C'est José Mourinho qui disait que, voilà, que s'il était à la place du Real Madrid, il fera en sorte qu'il reste le plus longtemps possible et en termes d'années, plusieurs années. Et c'est vrai que ça va dans le sens de la prolongation de contrat, qui a un petit peu, je crois, frustré, beaucoup de fans, parce que ils ont toujours l'œil du côté de l'Allemagne, du côté de Leverkusen, pour peut-être, on va dire, courtiser celui qui pourrait être notre futur coach. Mais effectivement, dans cette situation et dans la façon dont la saison a été gérée, c'est vrai que Carlo Ancelotti mérite vraiment tous les lauriers nécessaires, parce qu'il a dû faire face à plusieurs blessures à différents moments de la saison, différentes méformes aussi de certains joueurs. Et pourtant, on a toujours vu une équipe qui était régulière. Et même à certains moments de la saison, avec une pléiade de blessés côté madrilène, on a vu que cette équipe était capable de très bien jouer au ballon, de très bien jouer au football et de prendre les 3 points. Et elle a toujours été régulière, hein, parce que c'est vrai que ce qu'on avait vu particulièrement en termes de chiffres, de statistiques, où le Real est parti pour battre pas mal de records. Donc c'est ça qui, on va dire, qui impressionne un petit peu, hein, que ce soit au niveau défensif, que ce soit au niveau des clean sheets pour les gardiens, que ce soit au niveau peut-être même, j'allais dire, voilà, donc du nombre de matchs de matchs perdus. Donc c'est vrai que là on en a perdu, j'allais dire, ouais, voilà, que deux depuis le début de la saison, et à chaque fois contre le même adversaire, c'est l'Atlético de Madrid.
Ouais.
Donc une fois en Liga et après une autre fois donc en Copa, mais sinon voilà quoi. Donc il y a pas mal de records là. Il y en a encore un, c'est le 27 matchs sans défaite en Liga après le match là contre la Real Sociedad. Donc du coup, si ça va au bout, il y a la possibilité de battre un record. C'est celui donc de la saison 87-88 et à cheval sur 87-88 et 88-89, où il y a eu donc une série d'invincibilité de 30 matchs et de 28 matchs donc sur ces saisons-là. Donc on commence à battre des records même de 1900, je sais pas combien. Donc ça montre vraiment que là le Real a pris donc de la confiance. Mais et que voilà, que même si voilà, donc on pense qu'il est moins offensif que les grandes années Hichem, ben ce Real Madrid là marque à tous les matchs quasiment.
Ouais.
Et du coup qu'est-ce qu'on pouvait dire,
sans numéro 9 en plus,
sans numéro 9. Donc
je sais, voilà, pas si on se rend, ouais, compte en fait de la prouesse de la chose en fait, hein. Mm-hmm. J'aurais jamais pensé, honnêtement, au début de saison, et on était là au début de podcast, dans les premiers podcasts de cette saison, on se demandait comment ce Real Madrid allait faire sans numéro 9. On pensait même à une saison à la limite, avec, si on arrivait à avoir un titre, ça aurait été extrêmement positif.
Mm-hmm.
Et là, on se retrouve avec des records à battre, des performances contre les plus grandes équipes d'Europe, absolument incroyables.
Et même des records justement défensifs, alors que je sais que Hichem, toi, t'avais vraiment souligné le problème qu'on a sur les transitions défensives, la fébrilité, ouais, qu'il y avait dans l'ensemble. Et pourtant, ouais, ce Real Madrid, j'allais dire, peut faire la saison avec le moins de buts de son histoire.
C'est
très fort.
C'est extrêmement fort. Bravo encore une fois à Carlo Ancelotti. Pour tout ce qu'il arrive à réaliser en réalité, parce que c'est pas simple. T'as l'impression des fois qu'il bricole certaines choses, mais à juste titre, avec les moyens du bord, parce que l'équipe, on le sait, est encore. Justement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle est encore en construction, cette équipe? Parce que début de saison, c'est ce qu'on se disait. C'est ce qu'on se disait. Et là, en l'espace de quelques mois, ça a été complètement. La dynamique a été complètement inversée, j'ai l'impression. Cette équipe n'est peut-être pas en reconstruction, et peut-être qu'on a vraiment une équipe qui fonctionne, avec bien évidemment l'ajout de 2 ou 3 joueurs d'appoint, peut-être un défenseur central, penser à un attaquant qui va probablement arriver cet été, mais globalement, il n'y a pas plus de changements à faire. Le milieu, tu l'as pour de nombreuses années, il est capable de marcher sur l'Europe pendant de nombreuses années également. La défense, voilà, quelques joueurs d'appoint, et l'attaque, qu'est-ce que tu veux changer à cette attaque? T'as Brahim Diaz, t'as Rodrigo, t'as Vinicius, même si Rodrigo et Brahim sont d'un niveau un peu en dessous de ceux de Jude Bellingham ou de Vinicius Junior, ça en reste des joueurs qui marquent dans les moments importants et sont plus qu'utiles dans, dans cet effectif. Donc, incroyable tendance renversée par Carlo Ancelotti. Et en plus, avec un nouveau dispositif tactique. C'est-à-dire Real, et, si je ne me trompe pas, ça faisait plus de 25 ans qu'il n'avait pas joué dans un dispositif en 4-4-2 losange. Et je ne sais même pas, en fait, quelle était la dernière fois. C'était pas dans les années 90 avec, avec peut-être Butragueño ou cette période de l'histoire du Real Madrid de jouer en 4-4-2.
En 4-4-2, ouais, parce que là, moi, j'ai les souvenirs justement donc, des. Ben, j'allais dire de. Ah, parce qu'en fait, même les Galactiques, hein, si on regarde bien, Raúl et Ronaldo jouent ensemble donc dans un dispositif où il y en a un qui est peut-être en retrait par rapport à l'autre, mais ils sont très complémentaires dans leur mouvement. Et c'est vrai que c'est plus un 4-4-2 qu'il y avait. Là, je parle de avant Beckham. Ça, c'est ce qui m'arrive. Parce que c'est vrai que quand on regarde. 98, 2000 et 2002, il y a toujours deux attaquants parce que les deux attaquants en 98, ben, c'est Mijatovic et Morientes, c'est Raúl qui est en soutien. En 2000, Anelka et Morientes en finale avec Raúl qui est également en soutien. Et en 2002, on est dans une configuration qui est assez similaire, mais voilà, on est vraiment dans une démarche et dans une logique où le 4-4-2 c'était pas forcément quelque chose qui était privilégié, mais de mémoire, dis-moi Hichem si tu t'en souviens un petit peu, la première saison du retour de Florentino Pérez en 2009-2010, on joue dans un 4-4-2 justement donc avec
Raúl et Cristiano.
Avec Raúl qui a beaucoup moins joué cette saison-là, mais plutôt avec Higuain et Cristiano, quand c'était CR9.
Ah oui, ouais.
Avec CR9. Ouais, et dans cette période-là, moi, c'était une équipe qui, moi, me plaisait beaucoup, à titre personnel. Mais après, voilà, tu perds contre Alcorcón en Coupe du Roi.
Ouais, la saison de Pellegrini. Okay,
exactement, et tu perds les deux classicos, même si tu termines deuxième avec un total incroyable pour un deuxième. Cette saison-là, on avait l'impression que il était déjà condamné et que tout était mis pour pouvoir prendre Mourinho. Moi, j'étais un petit peu déçu, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait vu quand même un beau football quand même de la part du Real Madrid. Et après, derrière, ben, on a installé ce qui a fait la renommée de Cristiano Ronaldo, CR7, donc côté gauche, dans un 4-3-3. Et là, on revient sur quelque chose qu'on n'a pas vu depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc, c'est très fort. Et c'est vrai qu'en en 2024, on revoit une équipe qui joue avec deux attaquants.
Et c'était pas gagné parce que sans Benzema. Donc on aura le temps bien évidemment de faire j'imagine un podcast sur le bilan de la saison
de la ça. Saison mais, pouvoir mais, peut-être mais, saluer mais, le titre on verra à quel moment on le fera
exactement mais sans Karim Benzema donc il y avait une grosse inconnue. Karim Benzema c'est quand même le joueur qui a façonné quasiment le jeu du Real Madrid offensivement sur ces 10-15 dernières années et c'est fort ce que je dis parce que en fait même la BBC, comment fonctionnait la BBC, ben, c'est grâce à Karim Benzema aussi qui arrivait à s'adapter au repositionnement de Gareth Bale et de Cristiano Ronaldo pendant cette période-là. Donc Benzema était extrêmement utile, Benzema était était indispensable après Cristiano Ronaldo. Et donc sans ce joueur phare que tu enlèves de ton équipe, il y avait une grosse inconnue. Et vraiment bravo à Jude Bellingham qui a su plus que s'adapter à cette équipe-là, qui a compensé en fait ce manque de créativité qu'on a pu enlever avec l'absence de Karim Benzema. Mais bravo à Carlo Ancelotti qui montre encore une fois qu'il est un grand coach parce que mettre en place ce dispositif, c'était osé. Le faire fonctionner, c'était osé. Mais par contre, briller comme ils sont en train de le faire, c'est sensationnel.
Ah, sensationnel, et on attend justement que mardi en Ligue des Champions, on soit toujours dans les bonnes dispositions pour aller à Wembley le 1er juin prochain. Il y a ce match hein, qui nous attend et sur lequel maintenant on a vu que ce Real Madrid n'aura pas énormément d'absents. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une petite incertitude sur Ferland Mendy, mais je pense qu'il sera aligné et présent, que toute l'équipe disponible en tout cas sera là. On voit que le Real a fait le plein de confiance à 14 points d'avance au moment où on enregistre ce dimanche. J'allais dire abattu. Le Real a battu Manchester City, donc, c'est-à-dire a envoyé un message à toute l'Europe du football.
Et quand tu
vois, quel message. Et quand tu vois justement donc le Bayern, la façon dont ce match qu'ils ont joué contre Arsenal, qui est une équipe qui quand même a un manque d'expérience quand même comparé au Real Madrid. Moi, je parle surtout sur les dernières saisons au niveau européen et peut-être même dans la gestion du titre, de la lutte pour le titre également en Première Ligue. Et que tu vois que ce Bayern a été quand même un peu laborieux à l'aller et au retour pour pouvoir se qualifier. Et que tu vois aussi que c'est un peu la crise à différents niveaux, hein, puisque en dépit de la victoire 2-1, contre l'Eintracht Frankfurt ce week-end, mais le Bayern ne sera pas champion cette année. Président et entraîneur règlent leurs comptes avant de se séparer en fin de saison. J'allais dire, Hichem, on a l'impression que le Bayern, pendant de longues années, a été notre bête noire en Ligue des Champions. C'est un grand classique que du football européen, hein, et surtout en demi-finale de Coupe d'Europe. Je pense que c'est peut-être l'un des matchs qui s'est le plus joué à ce niveau de la compétition. On craint le Bayern, mais pourtant, voilà, on sort de trois qualifications consécutives contre cette équipe, 2014, 2017 et 2018.
Ouais.
J'allais dire, comment envisager une déconvenue ?
La déconvenue, elle est possible. Contre une grande équipe européenne. Moi, c'est ce que je disais un peu en off avant qu'on commence le podcast. Après, c'est sûr qu'on reprend tout l'historique que tu viens de retracer. Tout porte à croire que le Bayern se trouve dans des mauvaises conditions pour aborder un match aussi décisif, même pour eux, parce que sans victoire contre le Real Madrid et peut-être aller chercher une Ligue des Champions, il pourrait être conclure la saison, en tout cas avec une saison blanche. Dans la communauté football, il a été dit que le Bayern en fait a laissé sa place à Manchester City dans la rivalité européenne avec le Real Madrid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le classique européen pourrait être considéré comme Real Madrid-Manchester City. À la place du Bayern, Real Madrid, Real Madrid-Bayern. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que je pense que le Bayern, même si cette équipe se trouve dans des situations compliquées, reste une équipe déjà qui a une culture européenne dont on n'a pas besoin de reparler, hein, qui se présente à nous-mêmes. Et avec ça et le fait que ça reste quand même une équipe qui a des bons joueurs, des joueurs de qualité, des joueurs qui savent faire mal au Real Madrid. En tout cas, le Bayern a des armes pour faire mal au Real Madrid. Il faut pas qu'on tombe dans cet excès de confiance. Ça serait une erreur cataclysmique. Et je sais pas, j'arrive pas à jauger en fait dans quel aspect psychologique les joueurs du Real sont actuellement à pour affronter le Bayern Munich. Est-ce qu'ils sont dans un justement on sait que le Bayern est une équipe en difficulté en ce moment. On va pouvoir justement les terminer tout en les respectant bien évidemment, ou être justement dans un excès de confiance qui pourrait nous porter préjudice, parce que le Bayern, encore une fois, sait faire mal au Real Madrid et sait jouer les rencontres européennes contre le Real Madrid.
Dis-moi.
Si jamais on arrive à passer ce cap du Bayern, on a de très grandes chances, bien évidemment, de remporter cette Ligue des Champions à Wembley, quel que soit l'adversaire, je pense, qui pourra passer les autres demi-finales, donc soit le PSG, soit Dortmund, il me semble.
C'est ça.
Donc voilà, mais j'ai peur qu'on tombe dans un excès de confiance. Et c'est ça qui serait la déconvenue. Voilà.
Ouais, effectivement, parce que c'est vrai que là, quand on voit, par exemple, le match Real Madrid-Bayern Munich en Ligue des Champions, ce match a été joué 26 fois. 26 confrontations donc en Coupe d'Europe. Ça donnait 12 victoires pour le Real Madrid, 11 pour le Bayern et 3 matchs nuls. Et en termes de buts marqués, 41 buts marqués pour le Real Madrid, 39 pour le Bayern. Donc ce sont des équipes qui se sont jouées assez régulièrement. Donc la première fois, c'était en Coupe d'Europe, c'était en 1976. Mmh. J'allais dire, c'était déjà une demi-finale.
Ouais.
Donc et du coup une demi-finale que le Bayern justement donc s'est qualifié, c'était la grande époque de Franz Beckenbauer et ils avaient gagné la Ligue des Champions pour la troisième fois, la Coupe d'Europe des clubs champions pour la troisième fois consécutive en 1976 contre Saint-Étienne, les Français s'en souviennent. Et après donc quand tu vois par exemple demi-finale en 87, toujours en demi-finale le Real Madrid s'incline face au Bayern. Et après, c'est vrai que ça a toujours été, on va dire, cet adversaire qu'on a eu du mal à battre. Il a fallu attendre l'an 2000 pour pouvoir, on va dire, se défaire donc de cette malédiction que l'on avait justement donc face au Bayern. Même si en 88, on les avait battus en quart de finale, mais en demi-finale, c'est la première fois. C'était en 2000. C'était grâce à Nicolas Anelka. Je sais que Pablo et Johan s'en souviennent. Et après, derrière, ouais, on avait perdu en 2001 en demi-finale. On a regagné en 2002 en quart de finale contre le Real, contre le Bayern dans la double confrontation. On s'était qualifié en 2004. On a perdu en 2007.
Ouais.
Ils ont gagné. Et je pense que c'est l'une des plus grandes blessures pour beaucoup de Madrilènes en 2012.
Oui, et c'est une blessure qui a forgé, je pense, le Real Madrid pour les autres victoires en Ligue des Champions les années suivantes. Et notamment la rencontre que tu vas évoquer juste après, celle qui est 2013-2014.
Exactement, 2013-2014, où, le chef-d'œuvre absolu de Carlo Ancelotti, qui gagne 5-0 sur l'ensemble des deux rencontres, 1-0 à l'aller grâce à Benzema, et 4-0 avec... le fameux match où Cristiano Ronaldo est un homme de record à ce moment-là et qui justement donc nous mène vers la décima contre un Bayern qui était tenant du titre et qui avait fait forte impression l'année précédente. Et après donc 2016-2017, mais justement donc un match assez controversé quand même au niveau des décisions arbitrales en notre faveur sur le match retour. Et 2017-2018, merci aux erreurs du Bayern qui aurait pu peut-être être, et qui, je pense, aurait pu être meilleur que cette équipe du Real ou cette saison-là. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était pas terrible en championnat. Et en Ligue des Champions, on alternait le chaud et le froid et on était quasiment en apnée contre la Juve. Donc. Quand on joue la demi-finale contre le Bayern, tu te dis bon, ça va être compliqué de se qualifier. Et pourtant, on gagne à Munich. Et après, sur le match retour, le dernier match, on fait 2-2 avec un Benzema qui marque des buts qu'on lui a offerts. Donc,
ouais.
Donc voilà. Donc c'est toute une confrontation là. C'est vrai que la dernière fois c'était en 2008, donc ça fait 6 ans qu'on s'était pas retrouvé. Mais effectivement, donc là c'est. On a l'impression que même voilà, il y a quand même un écart de niveau sur la saison, parce que c'est vrai qu'ils ont Harry Kane, Hichem, mais qui marque ses buts. Mm-hmm. Harry Kane qui marque des buts, bon, c'est pas forcément un scoop, mais Harry Kane qui ne gagne pas de trophée, ça aussi c'est pas un scoop. Mais c'est plus surprenant au Bayern.
Ouais, c'est clair. J'ai l'impression qu'il a pas de bol le Harry Kane anglais là. Mm-hmm. C'est fou quand même que tu arrives. Au Bayern et que tu risques d'avoir une saison blanche. Alors, c'est pas gagné, hein. Il manque encore la demi-finale.
Ouais, c'est pas perdu pour
eux. Et la finale.
Et la finale, oui.
Mais ouais, c'est clair que c'est assez fou parce qu'il y avait une statistique comme ça qui disait que Kingsley Coman, ça faisait 11 ans ou.
Quasiment depuis le début de sa carrière qu'il a toujours été champion national.
Exactement. Donc il a fallu qu'Harry Kane vienne pour en fait ramener sa poisse et enlever en fait cette série incroyable de Kingsley Coman. Non, mais écoute, après, c'est un joueur, voilà, on ne présente plus ses qualités. Le Real le voulait à un certain moment, puis s'est rétracté, je pense notamment à l'été dernier, parce que il y avait un autre joueur dans le
viseur, ou que peut-être exactement. C'était trop cher pour ce que c'était.
Ouais,
ça, mais voilà, ça, c'est peut-être, voilà, donc c'est de dire, est-ce que tu mets cette somme-là, peut-être d'une centaine de millions d'euros, sur Harry Kane, alors qu'il a 30 ans? C'est vrai que c'était vraiment l'interrogation du côté du Real, et le Real n'a pas voulu justement se mettre dans cette situation-là, et j'ai l'impression que c'était pour privilégier un transfert en 2024.
Ouais, clairement, mais après, rappelle-moi, Gilles, si tu as cette information, Harry Kane, au Bayern, le Bayern l'a acheté combien ? C'était moins de 100 millions, non ?
On était sur une somme qui était assez importante, hein, donc je pourrais retrouver l'information de ce côté-là.
Après, c'est 100 millions d'euros, je viens de googler.
Oui, 100 millions d'euros. Après, c'est vrai que c'est surprenant de voir que... Je ne veux pas attaquer les supporters parisiens, hein, sinon ils vont nous le reprocher, mais quand même, que le même prix de pour Harry Kane, pour Randal Kolo Muani, bon, après, voilà. Est-ce que ça veut dire quelque chose aujourd'hui ?
Le petit pic à Randal.
Ouais, oui, bon. Après, voilà, Randal est au même niveau qu'Harry Kane en Ligue des Champions, donc du coup...
C'est pas faux, ça
montre, voilà, que comme quoi, voilà, vous pouvez investir de l'argent et ne pas avoir et avoir des fortunes diverses à titre individuel et collectif.
Ça c'est clair.
C'est lui qui va être le principal danger, justement, donc ouais. Mardi
avec Moussiala. Ah, et d'ailleurs Moussiala, tu le rappelais en off, qui est pas à 100% manifestement,
mais qui n'a pas joué justement contre Francfort. Et disons qu'il a une gêne au tendon qui l'empêchait de jouer la rencontre, mais sur lequel justement, donc, il ne devait pas y avoir donc de trop gros risques qu'il ne joue pas. Mais c'est juste une gêne, donc je pense qu'il est incertain sur la rencontre, mais qu'il sera bien aligné titulaire.
Ouais. Donc voilà, c'est les deux principaux, je pense, dangers offensifs, hein, du Bayern Munich, des joueurs talentueux. Qu'on ne présente plus quand on est un suiveur du football. Moi, j'aimerais aussi noter le cas Kimmich, qui reste également au milieu de terrain un des meilleurs joueurs au monde dans ce qu'il sait faire.
Mais là, il est aligné, je ne sais pas si, là, mais cette saison, je pense qu'il est aligné latéral la plupart du temps. Hein.
Ah, d'accord, je n'avais pas cette info. Ok. Très bien.
Il fait les deux postes, hein, mais c'est vrai que là sur cette saison là par exemple, oui, par exemple sur les matchs, sur les derniers matchs importants qu'il a joué, il était sur le côté, et c'était plutôt Leitner par exemple et Goretzka qui jouaient au milieu de terrain, et laissant justement donc Kimmich latéral droit dans cette équipe. Après, voilà, donc il faut voir aussi par exemple ce qui s'est passé contre Arsenal. Oui, là on va dire la plupart du temps, oui, cette saison c'est latéral droit qui joue.
D'accord, ok. Bon, j'avais pas cette info, je suis pas vraiment la Bundesliga et encore moins le Bayern. Mais ok, de toute façon, c'est des joueurs, voilà, comme je le disais tout à l'heure, avec beaucoup de qualité, une équipe qui, même si elle est en difficulté cette saison, sur bien des aspects, peut faire mal au Real Madrid.
Il y aura un beau duel, hein, contre Vinicius, hein, entre Kimmich et Vinicius, voire Rodrigo, quand on a vu ce qui s'est passé contre City, où les deux étaient sur le même côté.
Ouais, clairement. J'ai hâte de voir cette rencontre, en tout cas, parce que ça va être du très beau football, quoi qu'il en soit. Même si le Real est favori, l'issue reste indéterminée, ça c'est une évidence.
Ah oui, clairement. Mais je disais j'avais dit quelque chose en antenne. Kingsley Coman est revenu de blessure, donc là du coup ça va être intéressant donc de voir aussi cela, et surtout de voir dans quelle mesure il pourra rejouer. Peut-être, non, je crois qu'il a rechuté également, mais c'est surtout aussi moi, il y a deux joueurs, moi, que j'avais envie de citer donc dans cet avant-match. Déjà, on va dire, donc là je vais parler donc du plus jeune, donc c'est le jeune Matistel, qui fait une saison remarquable, hein, le jeune français où voilà qui de 19 ans qui voilà donc qui a marqué plus d'une dizaine de buts cette saison. Pour son âge, c'est quand même quelque chose d'incroyable au Bayern Munich. Mais aussi, je voulais parler de Alphonso Davies. Alphonso Davies qui était courtisé et qui est toujours courtisé aux dernières nouvelles par le Real Madrid. Il y a des discussions qui ont peut-être lieu en ce moment pour pouvoir organiser un transfert. Mais Dieu merci, de mon point de vue, la piste commence à se refroidir.
Exactement. Ouais. J'allais dire, Relevo rapporte que la piste serait en train de se refroidir.
Parce que peut-être c'est il faut sortir le chéquier, il faut donner un gros salaire à ce joueur. Ouais. Et j'allais dire que vu les joueurs que nous avons à notre disposition pour l'année prochaine à ce poste de latéral gauche, est-ce que ça vaut le coup? Donc on peut jouer aussi psychologiquement sur le fait de mettre un petit peu la pression à ce Alphonso Davies qui fait une saison, on va dire, en dents de scie. Pour jouer sur l'intérêt qu'il y a autour de sa personne et on va dire le brider un petit peu, ou tu penses qu'il va faire un gros match et qu'il va se rappeler au bon souvenir de gens qui l'ont vu à l'époque du Covid pour qu'il puisse peut-être signer au Real Madrid par la suite. Je sais pas comment on va aborder ce match face à lui.
Pour moi, c'est des professionnels, hein. Quand tu joues le Real Madrid. On le voit déjà avec les petits clubs de Liga, ils donnent toute leur vie. Donc, à un match comme ça, Alphonso va juste avoir envie de gagner avec le Bayern Munich, je pense. Mm-hmm. Et il n'y aura pas question de brider le joueur ou quoi ou qu'est-ce. Je pense que il peut nous faire mal. Il peut nous faire mal. Donc, avec sa vitesse et toutes ses qualités. Mais attention, nous aussi, on peut lui faire très très mal avec les joueurs qu'on a. Donc,
exactement. Mais même
si on est dans le dos, à bien respecter le travail défensif parce que ça va très très vite côté Real Madrid.
Également. Bien sûr. Mais après, moi, je me dis que quand tu vois, par exemple, le comportement défensif d'Alphonso Davies sur ce début de saison, attention, un Rodrigo qui est dans un bon jour, ça peut lui faire beaucoup de mal. Ouais. Et je pense aussi le fait que voilà qu'il se soit imaginé au Real Madrid et que finalement il pourrait ne pas signer, ça peut aussi avoir peut-être une petite influence sur son état d'esprit parce que c'est vrai que aujourd'hui il y a eu on va dire un retournement de situation, c'est de se dire que c'est pas au niveau du poste de latéral gauche qu'on aurait des soucis, mais plutôt qu'il faudrait qu'on se renforce, mais plutôt en défense. Tu le disais au début du podcast, ce sera peut-être au niveau de la défense centrale. Parce que Nacho va partir, très probablement, et que il faut, on va dire, le remplacer. Et là, j'allais dire, est-ce que Davies est essentiel puisqu'il n'a pas cette polyvalence pour jouer en défense centrale? Donc,
non, mais c'est ça. Hein, je pense que c'est de bon augure. Hein, même si Davies ne signe pas, c'est pas non plus une grande perte.
Ah oui, moi je suis pas. En tout cas, pour ce que c'est. Pour ce que c'est, voilà, c'est pas comme si on me disait, voilà, il y a Kimmich qui est sur le marché,
ouais.
Et il faut qu'on le prenne pour qu'il joue latéral droit au Real Madrid ou même milieu. Parce que là, il y a une opportunité qui va être incroyable pour beaucoup d'équipes en Europe pour Joshua Kimmich. Je pense qu'il y a moins de personnes qui se bagarrent pour prendre Alphonso Davies.
Ouais, c'est ça. Et donc. Donc de ce point de vue, bon, c'était et ça reste une belle opportunité sur le marché parce que c'est l'argument que j'avançais et Pablo avait le même que le mien, c'était que en fait sur le marché actuellement il y a pas mieux en termes de latéral gauche qui est accessible sur le marché, je parle hein, bien entendu, parce que moi quand je regarde maintenant l'effectif du Real Madrid, moi je suis désolé mais Ferland Mendy mérite une prolongation de contrat au vu de ce qu'il a pu présenter cette saison. Oui, il a des fébrilités, il a été souvent à l'infirmerie. Cette saison, c'est pas trop le cas. J'ai envie de continuer avec lui, d'autant plus qu'on a un joueur comme David Alaba qui peut aussi jouer à ce poste de latéral gauche, sans oublier Fran Garcia qui vient de la maison, qui pour sa première saison, n'est pas si impactant qu'on l'aurait pu le penser en début de saison, mais c'est une première saison, et je rejoins également cet argument que tu avançais, Gilles, qui est que ben il faut lui laisser le temps au gamin d'évoluer. Et donc du côté gauche, j'ai pas l'impression que ça soit une urgence absolue. Là, ce qu'il faut absolument, comme tu le disais, c'est ce poste de défenseur central. Et on a un jeune français qui est dans le viseur, ouais, qui est Lenny Yoro,
De Lille.
Défenseur de Lille. Voilà, la piste se réchauffe grandement, étant donné que la piste Alphonso Davies est en train de se refroidir. Donc, j'ai plus envie de parier sur un Lenny Yoro en défense centrale, parce que l'urgence, malgré tout, ça reste la défense centrale pour moi, plutôt qu'un autre poste en défense, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant, bien sûr.
Non, bien sûr, mais on sera attentif à tout ça, et on verra donc ce qui aura tendance à se passer donc dans les prochaines semaines et de ce côté-là. Mais bon, je pense qu'on a le temps. Il y a cet esprit madridista qui va intervenir en fin de rencontre mardi soir, après le match aller, où on fera, on va dire, le grand débrief de ce match aller, avant peut-être voilà, justement, donc sur le week-end prochain, de se focaliser sur le match retour et de voir, on va dire, quelles seront les choses à prendre en termes d'enseignement pour gagner ce match-là, pour aller en finale une nouvelle fois du côté de Wembley. Donc ça va nous faire un très beau programme. Donc voilà, Hichem, merci beaucoup. C'est vrai que là, on a été sur un épisode en tête-à-tête.
Ouais.
Voilà, donc ça change, hein, de d'habitude. Mais bon, ça, c'est pas plus mal.
Ouais, c'était bien. C'était un très bon épisode. J'espère que les auditeurs auront apprécié nos échanges. En tout cas, hâte qu'on soit mardi pour débriefer, j'espère, une victoire du Real, et une victoire qui nous permettrait, dès le match aller, en tout cas, d'être assuré d'aller en finale, quoi.
Et donc, tu le sens comment au niveau du pronostic?
Pour moi, on peut gagner contre le Bayern Munich. Je pense qu'on peut gagner 2-0 contre le Bayern.
2-0, ah ouais.
Oui, 2-0. Ouais, on a les armes pour leur faire mal à 2-0. Ouais. On connaît nos qualités défensives cette saison et les différents records qui pourraient être battus en Liga, comme on l'évoquait précédemment. J'ose espérer qu'on puisse ne pas se prendre de but contre le Bayern Munich. Je suis très optimiste. Hein.
Optimiste, ah, mais bon, optimisme de mise, justement, donc sur la rencontre, même si voilà, tu nous as dit d'être prudent quand même, parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'une déconvenue. C'est comme ça, effectivement, qu'on va aborder cette rencontre. Mais voilà, donc rendez-vous mardi soir, mercredi, justement, donc au petit matin, pour écouter, ouais, le prochain épisode, où on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, et comme d'habitude, Hichem, à la Madrid.
À la Madrid.